Soyez les bienvenus à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Je vais lire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, les versets 1 à 19 du premier chapitre. Et puis nous entendrons le témoignage de Christian Wolff. Et je dirai un mot sur le texte. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. « Va punir les Madianites pour le mal qu'ils ont fait aux Israélites. C'est après cela que tu quitteras ce monde. » Alors Moïse dit au peuple, « Il faut que certains d'entre vous prennent leurs armes et aillent attaquer les Madianites afin de leur infliger la punition décidée par le Seigneur. Désignez à cet effet 1000 combattants dans chaque tribu. » On choisit dans les troupes d'Israël 1000 hommes par tribu, soit un total de 12 000 soldats. Moïse les envoya tous au combat, accompagnés du prêtre Pinhas, fils d'Éléazar. Celui-ci emportait les objets sacrés, ainsi que les trompettes pour donner le signal du cri de guerre. Ils attaquèrent le pays de Madian, comme le Seigneur en avait donné l'ordre par l'intermédiaire de Moïse, et y massacrèrent tous les hommes. Ils tuèrent aussi les 5 rois de Madian, Évi, Rékem, Sour, Hur et Reba, de même que Balaam, fils de Péor. Ils firent prisonniers les femmes et les enfants des Madianites et s'approprièrent leurs bêtes de somme, leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils incendièrent leurs villes et leurs campements, puis s'en allèrent avec le butin, les gens et les bêtes dont ils s'étaient emparés. Ils amenèrent le tout au camp situé dans les plaines de Moab, près du Jourdain, et en face de Jéricho, pour le présenter à Moïse, au prêtre Éléazar et à toute la communauté. Moïse, Éléazar et les autres chefs sortirent du camp pour les accueillir. Moïse se mit en colère contre les commandements de régiment qui revenaient de cette campagne. Il leur dit « Quoi ? Vous avez laissé la vie aux femmes ?» Vous le savez bien pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur. Et à la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Eh bien maintenant, tuez tous les garçons, de même que toutes les femmes qui ont été mariées. Mais vous pouvez garder pour vous toutes les filles encore vierges. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un ou touché un cadavre doivent demeurer 7 jours hors du camp. Ils devront se purifier le 3e et le 7e jour. Cet ordre concerne aussi vos prisonnières. Il y a face à l'horreur de la guerre deux écueils à éviter, si tant est que ce soit possible. Pensez que l'horreur et la barbarie sont derrière nous, car la civilisation a produit ses effets. Et penser que l'horreur et la barbarie sont à venir, car elles sont proportionnelles au progrès de la technique. La bataille de Verdun a été un de ces moments de l'histoire qui a fait penser, dire et écrire que l'homme avait atteint les limites de la violence guerrière. Et l'histoire, rapidement, a montré combien ce diagnostic, finalement rassurant malgré l'horreur, était faux. Ce diagnostic erroné, on le sait, sera répété de manière tout aussi erronée à la découverte d'Auschwitz, puis d'Hiroshima. La der des der ne l'était pas. Le second écueil que j'évoquais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, consiste à théoriser le pire à venir en élaborant une logique inverse. Le progrès technique rend l'avenir forcément plus dangereux que le passé. Et je parle ici d'écueil, non pas parce que ce serait faux, mais parce que c'est mortifère. J'y reviendrai dans un instant. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dans le mythe, c'est-à-dire dans la théorisation d'une réalité qui est finalement trop lourde à porter, trop lourde à assumer. Le sentiment d'impuissance propre à ceux qui sont rendus passifs par le cours de l'histoire, invite, pousse, force même, à retrouver une forme de maîtrise des événements par le biais idéologique, dont l'idéologie religieuse n'est pas absente. Et on pourrait développer ici l'importance de la religion protestante, notamment dans la période de l'histoire que nous évoquons. Mais je le disais en introduction, ce sera plutôt une question que nous aborderons au mois de février. Je vais parler d'écueil ici, car on sent bien que la marge de manœuvre entre ces deux assertions est faible. Mais alors, face à cette logique, que faire? Puisque ce n'est pas derrière nous et que ce n'est pas devant nous, les dés sont pipés. Ni baisse progressive du taux de barbarie, ni évolution inévitable vers une barbarie grandissante et apocalyptique. La philosophe Simone Weil y voit plutôt un trait constant de la nature humaine qui se développe plus ou moins selon le jeu qu'on lui laisse. Et elle en tire une sorte de loi terrible, c'est que l'on est toujours barbare avec les faibles. On est toujours barbare avec les faibles. Pour repousser le plus possible la barbarie et non annoncer qu'elle est derrière ou devant nous comme des Cassandres de bon marché, il faut sans cesse redistribuer les forces. Et comme le disait Paul Ricoeur, ne pas laisser quelqu'un sans contre-pouvoir face à soi-même. Ne pas laisser quelqu'un sans contre-pouvoir face à soi-même. Et je suis, pour ma part, très sensible à ce glissement, vous l'avez senti, opéré, qui passe de la barbarie générale, sans nom, sans visage, à une dimension plus personnelle. Tellement personnelle d'ailleurs qu'il s'agit ici de moi-même. Ne pas laisser quelqu'un sans contre-pouvoir contre moi. Je suis le premier concerné par la violence de ce monde. Instituer le contre-pouvoir en face de soi pour éviter un trop grand jeu entre les forces en présence, comme une précaution finalement, c'est-à-dire en fait, et c'est la première idée que je voudrais développer ce matin, il y en aura deux, instituer le conflit. C'est Olivier Abel qui écrit « Il ne sert à rien de courir partout pour protéger la veuve et l'orphelin que vous abandonnerez dès qu'ils auront mordu votre main charitable. » C'est donc la distribution des forces qu'il faut soigner, et il faut toujours donner un couteau à l'autre, au plus faible, dans le mariage, comme dans toutes les alliances qui forment les sociétés adultes. Il faut instituer le conflit. Fin de citation, avec ce qu'elle a de provocateur, surtout aujourd'hui, la nécessité de penser le conflit n'est pas une nouveauté. Elle s'est imposée en protestantisme, notamment parce qu'il est à l'origine une dissidence, c'est-à-dire qu'il est né de la divergence. Mais au-delà de ça, et l'exemple du mariage dans la citation n'est pas anodin, j'en avais parlé en introduction, le protestantisme a réfléchi étant lui-même au bénéfice d'une forme de déliaison, à la manière de se délier quand on n'est plus d'accord. Ainsi, la possibilité de divorcer, rendue possible avec la réforme, va donner lieu au développement d'une éthique du contrat. Une éthique du contrat, notamment dans le puritanisme anglo-saxon, le covenant, qui va développer l'idée du contrat de mariage, avec cette idée que se lier, c'est-à-dire être ensemble, faire la paix, ne peut se concevoir que s'il y a une possibilité de se délier. Ce qui est alors une grande nouveauté, puisque ce n'est pas accepté. Le conflit, puisque c'est bien de cela dont il est question ce matin, le conflit, la guerre, est non seulement pensé, mais il est anticiper. On sort du principe qu'il ne faut pas se battre, qu'il ne faut pas divorcer. On sort du principe parce qu'on en connaît les limites. Il ne s'agit pas de dire aux gens « il ne faut pas divorcer parce que c'est pas bien, il ne faut pas se taper parce que c'est pas bien ». On perçoit les limites du discours incantatoire, normatif. Alors on sort, à partir de la réforme, de la lettre pour rejoindre la vie dans sa complexité. Penser le conflit, c'est d'abord refuser la naïveté de croire que le pire est derrière nous, mais aussi le cynisme qu'il est devant nous, avec tout ce que ce cynisme peut impliquer, y compris une forme de retrait du monde au nom de la foi, ou l'abandon de la discussion au nom d'un pacifisme de bon aloi, certes, toujours, surtout dans les églises, mais qui peut s'avérer contre-productif. Penser le conflit, c'est également refuser de faire de la puissance de l'Évangile un discours incantatoire, je le disais, ou un principe. Se contenter de le citer en exemple, ou même de l'appliquer sans l'interpréter, comme s'il représentait une protection contre l'errance humaine, comme si l'évocation d'une parole évangélique pouvait suffire. Dire « je suis contre la guerre parce que je suis chrétien » est une phrase trop courte pour moi. Il manque quelques étapes. Et je crois que le mouvement réformé, face à l'impuissance humaine devant des situations dramatiques, a une fois pour toutes décidé d'accepter la complexité d'une situation contre le slogan ou le principe. Penser le conflit en donnant à l'autre un couteau, ou plutôt, disons, un contrat, pour éviter un écart trop grand entre le fort et le faible. C'est faire entrer la discussion dans la sphère privée. La guerre n'est plus seulement cet événement terrible dont on peut parler, comme on l'a vu ce matin, quand on l'a connu dans sa propre famille, et dont on parle très mal quand on ne la connaît pas. Elle devient, quand on imagine qu'on peut penser le conflit, une réalité quotidienne. Et le texte biblique, j'aimerais faire le lien avec le texte que je lisais tout à l'heure, est le fruit du travail d'auteurs qui avaient compris que la guerre n'est pas seulement l'événement, aussi tragique, aussi terrible soit-il. Et ce sera ma deuxième idée pour ce matin. Je reviens ici sur la lecture donc, du chapitre 31 du livre des Nombres. On accuse facilement, c'est un lieu commun, les religions d'être à l'origine de la violence des hommes, comme s'ils avaient besoin d'une excuse pour se défouler. Et j'entends encore trop souvent parler du Dieu violent de l'Ancien Testament. Ce texte pourrait d'ailleurs donner du grain à moudre à cette thèse. Et là aussi, c'est un peu court. C'est vrai, le texte de ce matin est très violent. Mais il est l'exemple du fait que la guerre peut et doit être pensée, narrée, racontée, c'est-à-dire non seulement mise en récit, mais mise en parallèle avec les problématiques qui nous préoccupent au quotidien. Et c'est exactement ce qu'ont compris les auteurs de ce texte. Je m'explique. La campagne militaire qui est décrite, autant le dire tout de suite, est purement imaginaire. L'auteur ou les auteurs anticipent, en fait, à l'époque de Moïse, des événements plus récents. Et les préoccupations sacerdotales, c'est-à-dire la manière pour les prêtres, les sacerdotes, les prêtres, d'organiser la vie religieuse, y sont prédominantes. Il y a le souci de compter. C'est pour ça qu'on dit le livre des nombres. On veut savoir combien on est dans le peuple. Le souci du bon ordre, des privilèges de la caste, et surtout des rites de purification. Vous le voyez, l'instauration et le respect des lois sacerdotales semblent être la grande bataille dont il est question, alors même que le peuple qui erre au désert est en proie à la tentation de l'idolâtrie. Il faut donc réagir, et la levée de l'armée se fait dans l'ordre, par tribu, avec un chiffre symbolique, 1000, afin que l'ensemble du peuple soit concerné. Sous la direction non d'un chef militaire, mais d'un grand prêtre, et accompagnés des objets sacrés, des trompettes de procession. Aucune description du combat, donc. Un seul verset, ils attaquèrent le pays, comme le Seigneur l'avait commandé. Mais seulement le résultat, ils tuèrent tous les mâles. Ce texte nous donne une image assez complète de ce qu'est la guerre sacrée, présentée comme la vengeance de Dieu. Mais à l'époque où l'auteur parle, Israël, englobé dans l'Empire perse, ne pouvait plus mener aucune guerre. Ainsi, le terme de guerre sacrée est à comprendre non pas comme un combat contre les hommes, mais un combat contre le risque bien réel pour Israël de s'étioler dans l'idolâtrie. Pour être complet, il faut mentionner un combat bien réel, celui de la caste sacerdotale qui veut imposer son ordre, mais un autre combat est visé par le texte, moins corporatiste, celui de discipliner un peuple et de le prévenir contre un retour à l'idolâtrie qui le menace. J'arrive au terme de cette prédication et je voudrais résumer ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin, ces deux idées. D'abord que face à la violence humaine, la théologie protestante et donc la foi réformée ont tenté plutôt que de raisonner en termes de principes, de règles, à penser la complexité des relations humaines, en instituant la discussion, y compris dans la divergence, surtout dans la divergence. La compréhension du texte biblique a incité très tôt à penser la possibilité de gérer le conflit et la déliaison qui mène à la bataille, quand les choses se passent mal, en donnant aux plus faibles une arme pour se défendre en cas de séparation, une attention aux plus petits. Ainsi, le rôle du croyant en théologie protestante n'est pas avant tout conçu comme un modèle de vertu qui obéirait à des lois immuables, mais comme un être charnel qui se sait au bénéfice d'un amour inconditionnel, mais qui n'est pas capable de faire la même chose avec ses voisins, quand bien même il le souhaite de tout son cœur. Et ensuite, la deuxième idée, que la Bible n'est ni un pamphlet violent, une ode à la violence. L'Ancien Testament n'est pas la partie violente de la Bible, ni une charte. Contrairement à ce qu'on lit en ce moment, elle n'appelle pas à la violence, pas plus qu'elle ne prétend la nier. La constatant, elle propose une mise en récit qui permet au lecteur de s'en distancer à travers la narration pour mieux l'appréhender, la penser et la conjurer. C'est mutatis mutandis, l'exercice de ce matin. Raconter, mettre en récit ce que nous avons vécu, plutôt que de l'idéologiser pour pouvoir le supporter, parce que c'est trop lourd, plutôt que d'en faire des slogans, accepter qu'on va complexifier, raconter, conjuguer, mêler, et voir dans la Bible ce que les textes peuvent nous apporter sur cette expérience qu'est la guerre. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous accompagne et vienne toujours mettre foi, espérance et amour dans vos vies.